32 à 47. On va commencer. Et puis, je crois qu'on peut le mettre sur l'écran aussi, ou si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. OK. Ça nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. On va aller dans la Bible. Hein? Merci Seigneur pour les textes écrits pour nos Bibles. OK. Merci Dan. OK. On va falloir prier de nouveau, ça continue, hein? Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint? Juste le PowerPoint. Amen. OK. On va prier. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est vivante, qui est puissante. Et que merci pour ton esprit, Seigneur, qui rend ta parole vivante à nos cœurs, qui nous ouvre nos yeux, Seigneur, pour comprendre les choses, pour voir des choses de la manière que toi, tu le vois, Seigneur. Et ce matin, je prie, Seigneur, qu'à travers ce message, mes frères et mes sœurs ici, Seigneur, que les enfants qui sont ici n'entendront pas seulement ma voix, Seigneur, mais surtout ta voix, Seigneur. Parle-nous à nos cœurs par ton esprit, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, Dieu, afin que nous puissions comprendre ta volonté, que nous puissions voir notre prochain dans ce monde la façon que tu le vois, Seigneur, que nous puissions voir nos frères et nos sœurs la façon que tu les vois, Seigneur Dieu, et que nous puissions, Seigneur Dieu, te servir comme tu nous appelles à te servir et à apporter ton amour dans ce monde et aussi vivre, Seigneur, la communion fraternelle que tu veux que nous vivions dans ton Église comme tu le désires. Aide-moi à partager ce message, Seigneur, je prie, pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'avancement de ton royaume. Et au nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. OK. On recommence. Au verset, on va acte 2. Wow. OK. Ça ne fonctionne pas encore. On y va. OK. Amen. C'est écrit un peu petit. Ça dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Allez. Le thème que j'avais sur mon cœur de partager au début de cette année 2022, puis je vous l'avais mentionné, c'était le thème « Dans les maisons et au temple ». Et c'était vraiment l'importance de la communion fraternelle et de notre vie chrétienne aussi, qui se vit pas seulement ici à l'Église, mais que ça se vit 7 jours sur 7. Et puis, ça n'a pas été facile de se rencontrer dans les 2 dernières années, hein, à l'Église et dans les maisons, vraiment, mais... Dieu voulant, on va être capable maintenant. Et je veux vous parler un petit peu ce matin au niveau de la communion fraternelle. Et on est tous conscients, vous savez, que nous vivons des moments de plus en plus difficiles sur notre planète. Hein? Et que nous soyons croyants ou non, la Bible prédit qu'il va y avoir des temps difficiles avant le retour du Seigneur, avant la fin de notre monde, tel que nous le connaissons présentement. L'apôtre Paul l'a bien dit, puis... Je crois vraiment, comme plusieurs d'entre vous, oui, que nous approchons de plus en plus de ces temps difficiles. Et les temps difficiles, vous savez, ils vont affecter toutes les personnes sur la terre. Croyant ou non? C'est un peu comme la pluie et la neige, qui tombent souvent. Hein? Mais lorsqu'elles tombent, ça tombe sur tous, sur les bons et sur les moins bons. N'est-ce pas? Et toutefois, vous savez, il y a une différence dans la manière que nous pouvons vivre et traverser les moments difficiles. Hein? Nous pouvons choisir de les traverser, ces temps difficiles, on peut choisir de les traverser sans espoir ou sans espérance ou sans Dieu, sans Jésus ou avec Jésus, avec Dieu, avec espérance de sa grâce. Et on peut aussi choisir de les vivre avec la famille de Dieu ou sans la famille de Dieu. Êtes-vous avec moi? Vous savez? Et Jésus ne nous a jamais promis que ce serait facile et confortable de le suivre et de marcher dans sa volonté. Non. En fait, il nous a promis le contraire. Il nous a promis le contraire. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Oui, Jésus nous a promis qu'on aurait des temps difficiles. Merci Seigneur. Hein? Mais il nous a promis aussi d'être avec nous jusqu'à la fin. Et de nous donner la grâce suffisante en toutes circonstances. Amen. Et la foi, la vraie foi, c'est de croire dans la fidélité de Dieu, dans sa provision en toutes circonstances. C'est ça la vraie foi. Et à cause de ceci, nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul a dit hein, aux Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et à cause de ceci, nous pouvons toujours lui rendre grâce au Seigneur en toutes circonstances. Paul a dit aux Thessaloniciens, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Absolument. Mais de quelle façon est-ce que le Seigneur vient rencontrer nos besoins et nous accorder sa grâce suffisante pour que nous puissions nous réjouir en tout temps et lui rendre grâce en toutes circonstances? De quelle façon est-ce que le Seigneur vient nous rencontrer, vient nous fortifier, guérir nos cœurs, nous consoler dans nos afflictions, nous encourager? De quelle façon le Seigneur vient pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse? Hein? De quelle façon est-ce que le Seigneur vient nous donner la joie, nous donner une famille avec nous, des amis? C'est souvent à travers les gens à côté de nous, à travers la famille chrétienne. Lorsque nous marchons dans la communion fraternelle, êtes-vous avec moi? C'est souvent de cette façon-là. Et c'est pas toujours facile de vivre ensemble. Je vois des sourires, hein? Vous savez de quoi je parle. C'est pas toujours facile, c'est certainement, vous savez. Savez-vous que l'Église, dans les Actes des apôtres, a grandi beaucoup? Hein? Et une des raisons pourquoi est-ce qu'ils ont grandi de cette façon-là, et les historiens le disent, c'était à cause de leur communion fraternelle. C'était à cause de l'amour qu'ils avaient les uns envers les autres, qui partageaient leurs besoins, qui étaient ensemble. C'était tout un témoignage pour leur communauté. Et c'est une des raisons majeures pourquoi ils ont grandi et qu'ils ont atteint le monde, qui ont changé le monde, même jusqu'à nous. Hein? Comment ont-ils pu arriver à vivre cette communion fraternelle-là, à s'aimer de cette façon-là? Ils n'étaient pas parfaits, là, ces gens-là. Non, ils n'étaient pas parfaits, vous savez. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à s'aimer, comme on vient de dire, qu'ils partageaient leurs biens les uns envers les autres, vous savez, à s'aimer? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à se supporter les uns les autres? Je vais utiliser le mot un peu plus cru, là. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à s'endurer les uns les autres? Well, et vous savez comment est-ce qu'ils ont fait aussi pour apporter l'amour de Dieu dans le monde qui était, dans un monde qui était méchant aussi dans ce temps-là, qui était corrompu, qui était peu bas. Comment est-ce qu'ils ont fait? J'aimerais de vous proposer une réponse ce matin. Et la réponse que je vous propose, c'est qu'ils ont regardé leur prochain avec les yeux de Jésus. Et je suis persuadé que c'est la seule façon que nous pouvons arriver à vivre une communion fraternelle profonde dans l'Église et apporter l'amour de Dieu dans notre monde. C'est la seule façon. OK. La première chose, on est déjà rendu là. Pour apporter l'amour de Dieu dans notre monde, il faut regarder notre prochain avec les yeux de Jésus. Dans Jean 3, 16, hein, verset 16 au verset 18, hein, ça dit ceci. Ça dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comment pouvons-nous aimer notre prochain dans un monde qui est souvent méchant, ingrat, blasphémateur, qui rejette l'amour de Dieu, qui rejette même ceux qui confessent le nom de Dieu? Ce n'est pas toujours facile d'aimer le monde. De quelle façon devrions-nous voir une personne qui n'a pas encore reconnu que Jésus est venu dans ce monde pour lui donner la vie éternelle? On devrait les voir comme Jésus les voit, avec les yeux de Jésus. On devrait les voir comme une personne estimée de Dieu, aimée de Dieu, une personne dont Jésus a porté les péchés sur la croix, une personne dont Dieu veut qu'elle vienne à la repentance pour qu'elle soit retrouvée. Amen. Qu'importe qui elle est, qu'importe quel mal elle a fait, qu'importe son style de vie qu'elle a choisi, non, ça ne fait aucune différence. Qu'importe sa foi, sa croyance, nous devrions les voir, vous savez, comme Dieu les voit, comme une personne estimée. Dieu voudrait que nous, on regarde notre prochain, le monde autour de nous, de la même façon que lui, à travers les yeux de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. En plaçant Jésus entre moi et cette personne à côté que je rencontre dans ce monde ici. Et si je place entre moi et cette personne, vous savez, Jésus, ça va faire toute la différence. Et c'est la seule façon que nous aurons la force d'aimer puis d'apporter l'amour dans notre monde, surtout envers nos ennemis, envers ceux qui nous persécutent. Jésus a dit ceci dans Matthieu 5, hein? Il a dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Savez-vous que Dieu est bon même pour les méchants puis les injustes? Oui. Ne sommes-nous pas appelés à faire la même chose que notre Père Céleste? Oui, nous sommes appelés, si nous voulons être les fils de notre Père, d'être bons même envers les gens qui sont méchants, envers les injustes. Lorsque Jésus était à la croix, hein, en regardant à ceux qui l'avaient crucifié, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y avait pas d'amertume dans le cœur du Seigneur. Hein? Wow! Regarder avec les yeux de Jésus, c'est de dire la même chose aussi, c'est de penser la même chose, c'est d'avoir les mêmes sentiments que Jésus. Oui, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça nous arrive de se faire moquer ou persécuter. Est-ce que ça vous arrive des fois? Peut-être que les gens, des fois, ils nous persécutent pas ou avec des... ils nous frappent pas, mais des fois, avec leurs yeux, ils nous regardent, puis on sait qu'est-ce qu'ils veulent dire. Hein? J'ai le privilège de faire des chapelles avec les Titans d'Acadie Batters, l'équipe de hockey. J'aime ça, j'ai du fun avec les gars. Tu sais. Mais je vais vous dire que des fois, quand je vais pour faire la chapelle, vous savez, c'est pas tous les joueurs qui viennent aux chapelles. Puis il y en a des fois qui me regardent, tu sais, puis ils savent bien qui ce que je suis puis pourquoi je suis là. Ah, ça, c'est le pasteur. Il vient pour les soins spirituels, tu sais. Tu sais? OK! Tu sais. Juste le regard, des fois, c'est... Et probablement que vous aussi, des fois, les gens peut-être vous regardent de cette façon-là, vous savez. C'est important qu'on ait la même pensée. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas l'amour que tu as pour eux. Vous savez, le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. On l'a lu tout à l'heure, hein? Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Nous n'avons pas besoin de juger davantage. On pourrait dire ceci aussi, vous savez, Dieu ne nous envoie pas dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers de nous. Amen. Oui, c'est ce que le monde a besoin de ressentir de notre part, les enfants de Dieu, qu'on puisse les voir de la même façon que Jésus les voit. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez Jean Mayhew, le docteur Jean Mayhew, un psychiatre. Il est dans notre église, puis il a déjà prêché ici à quelques reprises. Hein. Jean Mayhew, quand il partage son témoignage, il dit ceci. Il y a un de ses patients un jour, et c'est avant qu'il vienne au Seigneur. Il dit, il y avait un patient, puis son patient, il était converti au Seigneur, ça faisait pas tellement. Il dit, j'ai vu dans ses yeux l'amour de Jésus pour moi. Puis, ça a fait une impression sur lui, lorsqu'il a vu ça, si vous le savez. Et finalement, il a accepté le Seigneur un peu par après. Mais c'est ce que les gens devraient voir. Et c'est ma prière que les gens le voient aussi à travers de moi, vous savez. Nous devons rechercher à voir les gens qui ne croient pas encore en Jésus avec les yeux de Jésus, avec la compassion de Jésus, avec le sacrifice que Jésus a fait pour eux à la croix. Par amour, le Père a donné son Fils. Par amour, le Fils a donné sa vie. Et c'est ce que les gens ont besoin de voir et de ressentir à travers de nous. Et c'est la façon que l'Église, dans les Actes des Apôtres, a grandi, on voit. Les apôtres, les disciples ont regardé le monde avec de cette façon autour d'eux. Amen. Donc, je prie que le Seigneur nous aide à voir nos prochains. Puis je sais que ce n'est pas facile. Ça, c'est pour notre prochain sur la planète qui n'ont pas encore compris l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder, vous savez, de la façon qu'on devrait voir notre frère ou notre sœur dans l'Église, dans la famille chrétienne. Et si nous voulons vraiment les aimer, vous savez, vivre la communion fraternelle comme Dieu nous appelle à faire, c'est important qu'on les regarde aussi avec les yeux de Jésus. Et c'est la deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin. Pour vivre une communion fraternelle profonde, il faut regarder notre frère et notre sœur avec les yeux de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Jean, le chapitre 4, verset 9 au verset 11. On l'a lu tout à l'heure, mais je veux le relire. Ça dit, « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Comment devrions-nous regarder notre frère et notre sœur dans la famille de Dieu? Avec les yeux de Jésus, avec les yeux de Dieu. Et de quelle façon est-ce que le Seigneur voit mon frère ou ma sœur ou qu'il nous voit? Ici, l'apôtre Jean, il dit, vous savez, dans le verset 11, il dit « Bien-aimé, Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés. Les enfants, êtes-vous des bien-aimés? Yes! Oui! Amen! Bien-aimés. Et le mot ici, bien-aimé, c'est le mot agapetos, hein? Qui veut dire estimé, qui veut dire très précieux, qui veut dire digne d'amour. Ça nous parle d'une personne, une personne. Je suis en train de prendre votre accent, je pense. Une personne, hein, vous comprenez? Une personne aimée. Et une personne digne d'être aimée. Digne d'être aimée. Et l'apôtre Paul utilise le mot bien-aimé pour parler des chrétiens une multitude de fois. On le retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Dans l'épître de Paul aux Romains, il dit ceci, hein? Il dit à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques, il dit ceci, hein? Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, il dit ceci, il dit, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu ou élu de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Amen. Nous sommes des bien-aimés. Pouvez-vous dire ça avec moi? Je suis un bien-aimé de Dieu. Ça fait-tu du bien? Oui, nous sommes des bien-aimés, des agapetos, hein, si vous voulez utiliser le mot grec. Hein. Vous savez, pour être capable d'aimer nos frères et nos sœurs comme Jésus nous a aimés et comme Jésus nous appelle à les aimer aussi, pour être capable de les supporter comme Jésus nous supporte, pour être capable de contribuer à l'édification de mon frère et de ma sœur comme Jésus, pour être capable de pardonner comme Jésus nous a pardonné, pour être capable d'apporter la grâce, l'aide, l'amour, le support, la consolation que mon frère ou ma sœur a besoin, je dois le voir comme Jésus le voit. Amen. Et je dois me voir aussi comme Jésus me voit, comme un récipient de la grâce imméritée de Dieu dans ma vie. Je dois me voir, oui, comme un enfant de Dieu qui est pardonné, qui est réconcilié, qui est justifié, qui est adopté à cause de ce que Jésus a fait. Je dois me voir comme ça. C'est important, vous savez. Puis je dois voir mon frère aussi et ma sœur de cette façon-là. Je dois les voir comme des récipients de la grâce de Dieu, comme une personne bien-aimée et digne d'être aimée aussi. C'est la façon que Dieu voudrait qu'on puisse se voir dans l'Église de Dieu. Il faut regarder à travers les yeux de Jésus. Il faut mettre Jésus entre moi et mon frère, entre moi et Robert. Mais Jésus, alors ça fait toute la différence. Si nous voulons aimer puis vivre la vraie communion fraternelle. Vous savez, quand je vous regarde, puis vous êtes beau, puis vous êtes belle, mais quand je vous regarde, là, je vois des gens bien aimés, je vois des gens qui sont aimés passionnément par Dieu. Au point où ce que Dieu, vous savez, était prêt de donner son Fils pour vous. Au point où Jésus était prêt de donner sa vie sur la croix pour vous. Vous êtes des gens qui sont aimé, bien aimé de Dieu. Amen. Et vous êtes des gens qui sont dignes d'être aimés parce que vous êtes aimés de Dieu de cette façon-là. Et si Dieu vous aime autant, ne devrais-je pas vous aimer moi aussi? Comment est-ce que je pourrais dire, vous savez, comment je pourrais réellement dire que j'aime Dieu si je n'aime pas ceux que Dieu aime tellement? Si vous me diriez, vous savez, « Oh, pasteur Luc, je t'aime beaucoup, mais je n'aime pas tes enfants. » Wow! J'aurais de la misère de vous croire que vous m'aimez. J'aurais de la misère. Parce que mes enfants, je vous dis que je les aime. Puis mes petits-enfants aussi. Ils sont loin, mais je les aime pareil. Comme je dis souvent, on est loin physiquement, mais on est proche de cœur. C'est... Non. Vous savez, l'apôtre Jean, il dit de cette façon dans 1 Jean 4. Il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Si nous aimons réellement Dieu, nous allons rechercher à aimer notre frère et notre sœur de tout notre cœur, parce que c'est des enfants de Dieu. Et dans 1 Jean 2, il dit ceci, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Vous savez, la haine ou l'amertume ou quoi que ce soit, vous savez, ça nous rend aveugles. Ça aveugle. Ça enlève notre vision spirituelle. Et je vous dis ceci, vous savez, pour vivre la communion fraternelle avec toutes ces bénédictions qui viennent avec, et vous l'avez expérimenté, vous l'expérimentez déjà. Qu'est-ce que je vous prêche ce matin, ça? Je sais que vous expérimentez, comme on a entendu des témoignages, et dit, merci Seigneur, vous savez. Mais pour vivre la communion fraternelle, nous devons voir comme Jésus nous voit des bien-aimés de Dieu et nous devons voir nos frères et nos sœurs aussi comme des bien-aimés de Dieu malgré leur imperfection. Y a-t-il des gens qui n'ont pas d'imperfection ici? On a tous des imperfections. On en a tous. Mais nous sommes quand même des bien-aimés de Dieu. Puis mon frère et ma sœur est quand même un bien-aimé de Dieu, digne d'être aimé. C'est important. OK. La troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, la dernière chose, c'est aussi, vous savez, c'est que pour devenir des imitateurs de Dieu, ce que nous sommes appelés à être finalement, nous devons regarder notre prochain avec les yeux de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Éphésiens, le chapitre 4. On va lire quelques versets qui disent ceci. L'apôtre Paul y écrit, il dit, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Vous savez, regarder notre prochain dans le monde ou dans la famille avec les yeux de Jésus, vraiment, c'est la première étape pour devenir des imitateurs de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et j'aimerais dire ceci, vous savez, c'est seulement à la mesure que nous reconnaissons l'amour, la grâce, le pardon de Dieu pour nous, que nous serons capables d'aimer nos frères et nos sœurs. Je le répète, c'est seulement à la mesure que nous reconnaissons l'amour de Dieu pour nous, la grâce et son pardon de Dieu envers nous, que nous aimerons nos frères et nos sœurs. Je ne peux pas aimer plus que la connaissance que j'ai de la grâce et de l'amour de Dieu pour moi. Nous sommes transformés par la connaissance de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. C'est ça qui nous transforme, qui nous change. C'est pas « je dois faire ceci, puis je dois faire cela, puis je dois faire ceci ». Non, c'est en connaissant la richesse, la grandeur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. C'est ça qui change notre cœur. Et c'est ça qui change nos comportements. Dieu nous transforme à l'intérieur de nous. Avant de nous transformer à l'extérieur, il faut qu'il nous change à l'intérieur. Puis si on essaye de changer l'extérieur avant que l'intérieur soit changé, ça ne marche pas. Ça ne va pas nulle part. C'est pour ça que quand je vous dis que vous êtes des bien-aimés, là, c'est la fondation de notre vie chrétienne. C'est la fondation de notre transformation pour ressembler à Jésus-Christ, puis à aimer comme qu'il nous a aimés, puis à aimer nos frères, puis nos sœurs, puis à vivre la communion fraternelle dans l'Assemblée de Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Et vous savez, c'est en plaçant Jésus entre moi et mon frère et ma sœur que je vais l'aimer à la mesure de Jésus-Christ. Et c'est pas toujours facile, vous savez, puis qu'est-ce que je vous prêche, là? Je le prêche à moi aussi, là, tu sais. Parce que des fois, on est, je vous dis, l'exemple que je pensais, c'est comme des lunettes, t'sais. Là, j'ai pas mes lunettes, là, je peux pas lire mon texte. J'ai besoin de mes lunettes, tu sais. Et des fois, vous savez, regardez nos frères à côté de nous, là, si on ne le regarde pas avec Jésus, là, avec les yeux de Jésus, on ne le verra pas comme que tu le vois. On a besoin de mettre nos lunettes, de le voir avec Jésus. Ça fait toute la différence. C'est un bien-aimé, c'est une âme que Jésus est mort pour, la croix. Okay. L'apôtre Paul, il dit ici, « Soyez les imitateurs de Dieu. » En fait, il dit, « Ayez la même vision optique de Dieu, les yeux de Dieu. » Il dit, « Marchez, vivez dans l'amour. » Marchez, vivez dans l'amour. Et lorsqu'il dit, vous savez, marcher dans l'amour, c'est comme une marche quotidienne, on pourrait dire. Marcher, là, c'est pas quelque chose que tu as besoin de réfléchir, là, tu sais. Tu vas prendre une marche, là, tu sais. C'est automatique, là. Vous me suivez, là, normalement, c'est automatique, vous savez, puis tu vas prendre une marche. Lorsque l'apôtre Paul, il dit ici, là, marcher dans l'amour, là, c'est ça qu'il dit, que ça devienne automatique pour nous. Dans le sens que, vous savez, Dieu, il veut changer notre cœur afin que aimer devienne une chose automatique, que ça devienne notre nouvelle nature, le fruit de l'Esprit, de l'œuvre de Dieu à travers de nous, ça devient automatique d'aimer. C'est pas, ça devient, c'est naturel, c'est ma nature, et ça devrait devenir, c'est ça que Dieu veut faire dans chacun de nous. Êtes-vous avec moi? Et lorsque aimer devient automatique dans notre cœur, il n'y a rien de spécial, c'est juste, vous savez, c'est le signe que nous commençons à avoir de la maturité dans le Seigneur. C'est le signe que nous commençons à avoir de la maturité dans le Seigneur. Aïe, aïe! Je dois vous dire, ça fait 38 ans que je connais le Seigneur personnellement. Et j'ai le sentiment que je commence juste à avoir un petit peu de maturité dans le Seigneur. Parce que finalement, parce que mon cœur commence à changer, il a commencé à changer un peu, puis je commence à aimer un petit peu comme le Seigneur. Après 38 ans, j'ai dit, « Wow, Seigneur, ça prend du temps. » Mais tu dis, « Merci, Seigneur, t'es patient. » Je vous dis honnêtement, Ça, je fais juste de commencer. Puis je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de me péter les bretelles, là, tu sais. Merci Seigneur, tu commences à changer mon cœur un peu, que ça devient automatique, tu sais. Puis j'ai encore un bon bout de chemin à faire. Yes. Il dit, marchez dans l'amour. Et c'est ça que nous devrions prochainement. Vous savez, Jésus nous a aimés et il a livré sa vie pour nous, en offrande. Hein? Mais Jésus a aussi donné sa vie pour nous par amour pour son Père. Dans le verset ici, au verset 2, ça dit hein, que Jésus nous a aimés, qu'il s'est donné lui-même comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Vous savez, nous aussi, nous pouvons choisir d'aimer les gens pour qui ils sont, ou nous pouvons choisir d'aimer les gens par amour pour notre Père céleste. Voyez-vous la différence? Vous savez, nous pouvons choisir de livrer notre vie en sacrifice en aimant nos frères et nos sœurs parce que j'aime le Seigneur, je le fais pour le Seigneur, je t'aime Seigneur, puis parce que je t'aime Seigneur, je choisis d'aimer mon frère et ma sœur. Parce que des fois, c'est un sacrifice d'aimer un frère ou une sœur. C'est-tu pas vrai? OK. Oui, c'est vrai. Si vous êtes humain comme moi, oui, c'est vrai. Et je sais qu'il y a des personnes, probablement qu'ici, là, il y a des noms qui viennent à votre esprit, là. Hein? Oh. Et il y a même des gens qui m'ont déjà dit, puis j'ai déjà entendu ça, puis peut-être que vous autres aussi, vous l'avez pas, si vous ne l'avez pas dit, vous l'avez probablement pensé, mais on dit, c'est pas vrai que je vais avoir besoin de passer l'éternité avec lui ou avec elle. Non, vous avez jamais dit ça ici, vous avez jamais pensé ça, hein? Je connais des gens qui moquent. J'ai déjà entendu dans le temps. Vous savez, parfois c'est pas facile. C'est vrai. Je vais vous dire un truc. C'est pas vraiment un truc. C'est pour vous aider. Quelquefois, c'est plus facile d'aimer nos frères et nos sœurs par amour pour le Seigneur que par amour pour eux-mêmes, pour la personne directement. Je le fais pour toi, Seigneur. Et je vais vous dire, le plus qu'on choisit de le faire, le plus qu'il y a de l'amour dans notre cœur, qui grandit, puis qui se développe pour notre frère, puis notre sœur. Êtes-vous avec moi encore ce matin? Hein? Et sachez aussi que lorsque les gens sont difficiles à aimer, vous savez, dans le monde ou dans l'Église, choisir de les aimer, c'est comme un sacrifice, une offrande agréable, de bonne odeur pour le Seigneur. Comme ça a plu au Père le sacrifice que le Fils a fait, donner sa vie pour aimer, pour nous aimer. Et il y a d'autres passages aussi, vous savez, qui l'apôtre Paul il dit d'un fois, là, envers les gens qui sont difficiles, il dit, faites-le pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Et des fois, c'est la façon. C'est la façon que le faire. Mais sachez que lorsque vous choisissez de le faire, c'est un sacrifice qui est agréable, qui est une bonne odeur au cœur du Seigneur. Donc ce matin, je termine. On doit regarder notre prochain avec les yeux de Jésus. Pour apporter l'amour de Dieu dans notre monde, pour vivre une communion fraternelle profonde dans la famille de Dieu, puis pour devenir des imitateurs de Dieu. Et j'aimerais de conclure avec une citation, et peut-être qu'il y a des gens ici que vous connaissez cet auteur-là, c'est Dietrich Bonhoeffer, et c'est un pasteur en Allemagne, en fait, qui a été persécuté, qui est mort en prison dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a écrit il a écrit sur la vie communautaire, la communion fraternelle. Puis je trouve que qu'est-ce qu'il dit, c'est vraiment bien. Et j'aimerais de le lire en terminant. Et je sais que votre écran, elle est petite, votre écran ici, mais je vais vous le lire. Il dit ceci, il dit, « Lorsque nous parlons de communauté chrétienne et de la communion fraternelle, nous parlons d'une communauté en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. » En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut vraiment que Jésus-Christ soit au centre dans notre vie, puis qu'il soit au milieu de nous. Il dit, « Savez-vous qu'il y a des choses qui sont très destructives à la communion fraternelle? Une de celles-ci est lorsque nos attentes d'une autre personne dépassent la réalité. Parce que ceci nous amène à toujours être déçus de ne pas trouver ce que nous espérons. Parce que nous avons un espoir non réaliste et parce que nous ne le trouvons jamais, nous sommes toujours en train de se plaindre. Dietrich Bonhoeffer appelle ces gens dans son livre des plaignants perpétuels. Il dit, la fraternité chrétienne et l'Église ne sera jamais parfaite jusqu'au moment où nous serons tous transformés et semblables à Jésus. Le problème qui survient est lorsque nous nous attendons à ce que les chrétiens d'une Église vivent la communion fraternelle parfaite. La communion fraternelle à laquelle Dieu nous appelle est une réalité spirituelle en Jésus et non une réalité encore accomplie dans notre monde actuel. Il dit, c'est une paraphrase aussi, il dit, si nous pensons que la communion fraternelle ici-bas devrait être parfaite, nous allons continuellement critiquer l'Église plutôt que de contribuer à bâtir une meilleure communion fraternelle. Exiger un rêve d'une communion fraternelle parfaite, c'est exiger des autres et de nous-mêmes l'impossible. C'est demander une chose impossible même de Dieu. Nous plaçons des exigences qui ne sont pas réalistes et nous allons continuellement nous plaindre. Nos pensées peuvent devenir un reproche perpétuel à l'Église. Dietrich Bonhoeffer nous dit que le plus tôt nous reconnaissons que l'Église n'est pas parfaite et ne sera jamais parfaite dans sa communion fraternelle, le meilleur ce sera pour nous et c'est une grâce que Dieu nous fait de nous révéler cette vérité. Parce que nous allons arrêter de vivre notre vie chrétienne dans un rêve impossible à réaliser et nous allons marcher dans la réalité de ce monde pour contribuer au bien de l'Église et ne pas exiger de nos frères et sœurs l'impossible. Nous allons cesser de toujours mesurer la température de l'Église selon notre niveau, et nous allons plutôt remercier Dieu pour son Église et pour la famille de Dieu. La communion fraternelle ne peut se réaliser que lorsque nous regardons nos frères et sœurs à travers ce que Jésus a fait pour nous. Vous savez, j'aimerais bien vous dire que l'Église de Jésus-Christ est parfaite ou presque parfaite, mais vous savez mieux que ça. La réalité, c'est qu'elle ne l'est pas et qu'elle ne le sera jamais ici-bas, jusqu'à temps que nous serons avec lui. Vous savez, moi, le Seigneur m'a fait la grâce de réaliser, ceci, à peu près 3 à 6 mois après que j'ai venu au Seigneur. J'ai connu le Seigneur en 83 à Chibougamau, et puis j'ai rentré dans l'Église Pentecôte, puis c'était tellement beau, c'était tellement merveilleux, la présence de Dieu, les gens étaient fins, les gens étaient aimables, c'était... « Wow! J'avais finalement trouvé un endroit super! C'est ça! » Et environ 3 mois après, je crois que c'est à peu près ça, on avait un petit groupe. on se rencontrait dans des petits groupes maison, on était une dizaine, une douzaine de personnes. Et puis, la femme de notre dirigeant de petit groupe, puis c'est un très bon dirigeant, la femme de notre dirigeant a commencé à dire toutes sortes de choses, de ci et de ça, puis de un, puis de l'autre. Puis là, j'ai dit, wow, c'est pas correct, ça. Tu sais, il me semble que l'Église, c'est pas une place comme ça pour l'Église. Et j'ai réalisé à ce moment-là, OK, l'Église, c'est pas la perfection ou l'idée utopique là, qu'on se fait des fois, imaginaire, le rêve que je pensais, là, que c'était tout était parfait dans l'Église, ça, tu sais. Non. OK. Et je pense que j'ai décidé, en tout cas, là, puis j'ai dit, bon, ben je vais essayer de contribuer au bien de l'Église plutôt que de critiquer l'Église. Seigneur, fais de moi un ouvrier pour toi, pour aider à la... que l'amour se répande, le respect, le témoignage de l'Église. Ça m'avait frappé, et mon épouse aussi, ça l'avait frappé, on était un choc. As-tu vu ça? Notre rêve, là, d'une Église parfaite a été brisé complètement. Ah, OK. Ça fait 38 ans de ça. Puis, je travaille encore pour que l'Église grandisse dans son amour, dans sa communion fraternelle. Puis je crois que le Seigneur nous appelle à ça. Mais je vous dis ceci, parce qu'on peut faire partie de la solution. Dieu nous appelle à faire partie de la solution, à nous aimer les uns les autres, tout en étant réaliste que l'Église n'est pas parfaite, notre frère n'est pas parfait. Êtes-vous? Vous savez, malgré ces imperfections, il y a d'énormes bénédictions que Dieu notre Père veut déverser dans nos vies à travers son Église. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a une multitude de réponses aux prières que le Seigneur peut répondre à travers la communion fraternelle. On a entendu des témoignages ce matin, vous savez. Et pour vivre cette communion fraternelle, il faut regarder notre prochain avec les yeux de Jésus-Christ. Il faut les voir de cette façon-là, à travers le sang qui a coulé, à travers la croix. C'est important. Et vous savez, et je termine, je sais qu'il est tard, là, mais je termine. Je ne viens pas souvent, ça fait que peut-être vous allez être plus gracieux avec moi. Là. Je vais même vous dire ceci, on peut choisir de s'isoler, on peut choisir de s'éloigner, de abandonner l'Église, parfois pour se protéger. On peut choisir, tu sais. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de nos besoins, de nos prières qui ne pourront pas être exaucés. Parce que la façon que le Seigneur répond à nos prières puis qu'il rencontre nos besoins, c'est souvent à travers l'Église. C'est risqué, la communion fraternelle. C'est risqué. Ah oui. Ah, France, puis Sonia vous a enseigné là, sur les porcs-épics. Là, t'sais? Ah oui, on peut se faire piquer, puis honnêtement, on s'est tous fait piquer une fois ou deux. Hein? Au moins. Oui, c'est risqué. Mais ça vaut le risque. Ça fait 38 ans que je sers le Seigneur dans l'Église. Puis je suis plus convaincu que jamais que l'Église, malgré ses imperfections, c'est le moyen que Dieu utilise pour amener l'amour de Dieu à l'extérieur puis pour rencontrer une multitude de besoins dans son Église. Mais il faut accepter de travailler, de contribuer à la communion fraternelle dans notre assemblée, tout en étant réaliste. En étant réaliste, puis en regardant avec les yeux de Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi ce matin? pour vous dire quelque chose. Vous êtes des bien-aimés, puis vous êtes une belle gang. Quand je vois une belle gang de frères puis de sœurs qui aiment le Seigneur puis qui sont passionnés pour le Seigneur. T'sais. Puis je vous encourage de continuer dans votre passion. Puis je vous encourage de regarder votre frère puis votre sœur avec les yeux du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? Je vous remercie les enfants pour votre patience. Je sais que c'est un petit peu plus long le matin, là. Alléluia, Seigneur. J'aimerais qu'on... Peut-être que les musiciens pourraient revenir. Tu peux-tu revenir, Robert? Puis les autres aussi. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. On va prier ensemble. On peut fermer nos yeux peut-être devant le Seigneur ce matin, juste quelques instants. Puis... Si c'est votre prière, c'est votre désir ce matin, que le Seigneur vous aide à voir votre prochain à l'extérieur de l'Église dans ce monde, de voir votre frère et votre sœur avec les yeux du Seigneur. J'aimerais vous inviter juste à lever vos mains devant le Seigneur, comme ça. On a besoin. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, pour nous, que nous sommes tes bien-aimés, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à le réaliser davantage, Seigneur, au plus profond de nos cœurs. Tout comme Paul, l'apôtre Paul priait, Seigneur, que par ton esprit, les Éphésiens puissent connaître la hauteur, la profondeur, la largeur, la hauteur, Seigneur, de ton amour. Révèle-nous, Seigneur Dieu, l'immensité de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour et que ça déborde, afin que ça déborde à travers de nous, Seigneur. Je te prie. Et aide-nous, Seigneur, à voir, Seigneur, les gens autour de nous, à voir les gens de ce monde qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Aide-nous de les voir avec tes yeux, Seigneur. Et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, te voir à travers nos yeux. C'est notre prière, Seigneur. À travers nos cœurs. Donne-nous cet amour. Nous prions, Seigneur. Et nous prions aussi pour nos frères et nos sœurs, Seigneur. Merci pour la famille de Dieu, Seigneur. Pour des frères et des sœurs, si... pas seulement qu'on vient à toi, mais tu nous donnes une famille, Seigneur. Et je prie que tu nous aides, tu nous apprends à nous aimer encore davantage, de plus en plus les uns les autres, Seigneur. Et que, Seigneur, je prie que la communion fraternelle et l'amour, Seigneur Dieu, qui peut régner dans cette assemblée ici, Seigneur, soit un témoignage puissant et vivant, Seigneur, pour la communauté, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Et aussi, Seigneur, que les besoins, Seigneur Dieu, qui sont au milieu de nous, Seigneur Dieu, les besoins d'être encouragés, Seigneur Dieu, d'être supportés, toutes sortes de besoins. Seigneur, qu'à travers cette communion fraternelle, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, que ces besoins soient rencontrés à la gloire de ton nom, Seigneur. À la gloire de ton nom. C'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Fais ton œuvre par ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et toi, tu connais les cœurs. Guéris les cœurs aussi, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Guéris les cœurs, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Je te demande toutes ces choses, Seigneur, pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus. Amen.